L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Le deuxième sommet Russie-Afrique vient de s'achever à Saint-Pétersbourg. Il a réuni près de 6000 participants et journalistes venus d'une centaine de pays. Dans le cadre du sommet et du Forum économique Russie-Afrique, un total de 92 accords a été signé. Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, à l'occasion de la tenue de ce forum, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios en direct de Saint-Pétersbourg, Monica Motsvangva, ministre zimbabwéenne de l'information, Brahim Taharoubt, journaliste algérien au quotidien L'Expression, le docteur Messaoudi Abdelaziz, médecin tunisien, militant politique et des droits de l'homme, Larissa Zelentsova, présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS, et enfin Gorsar, enseignant de langue russe sénégalais et directeur d'une entreprise de consulting russo-sénégalaise. Avec eux, nous allons parler de la situation internationale et des possibilités de coopération entre la Russie et les pays africains dans le contexte de l'émergence des BRICS et de la probable mise en place de leur monnaie commune. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako, en direct de Saint-Pétersbourg. Madame la ministre, bienvenue au studio de Spoutnik Afrique. Nous allons commencer par la souveraineté qui était parmi les sujets discutés au sommet Russie-Afrique. Quelle est votre définition de la souveraineté des médias et comment s'applique-t-elle au paysage médiatique du Zimbabwe?
Media sovereignty is about...
La souveraineté des médias concerne la façon dont un pays considère la liberté d'expression. Le Zimbabwe respecte sa constitution. Notre constitution a été dictée par les gens. Et le peuple du Zimbabwe a parlé de ce qu'il voulait voir inscrit dans cette constitution. Et les chapitres 61 et 62 de cette constitution portent sur la liberté de la presse. Nous sommes donc très, très fidèles à ce qui est dans notre constitution. Et nous le faisons. Donc, la souveraineté de tout média est de s'assurer que le ministère de l'Information est juste là pour donner des conseils, des orientations politiques. C'est tout. Nous ne nous ingérons pas dans l'éditorial. Nous veillons également à regrouper tous les instituts médiatiques zimbabwéens. Et juste pour nous assurer que nous sommes si sûrs de qui nous sommes et que nous donnons des informations, parce que, rappelez-vous, le mandat des médias est d'éduquer les gens, de divertir les gens et de les informer. Et ici, nous parlons d'informer les gens sur le projet, sur les programmes réalisés par le gouvernement, sur les nouvelles. Nous voulons donc des messages qui unissent les Zimbabwéens.
Comment la Russie et le Zimbabwe peuvent-ils coopérer dans le domaine des médias?
Nous allons signer un protocole d'accord avec les médias de la Russie. Il s'agit de s'assurer que nous élargissons l'espace médiatique au Zimbabwe et que toutes les personnes aient accès à l'information. Le président, M. Mnangagwa, parle d'accès à l'information, d'accès universel à l'information pour tous. Et son mantra est de ne laisser personne ni aucune zone derrière. En conséquence, c'est un ministère. Nous avons accordé des licences à un certain nombre de stations de radio communautaires, surtout aux communautés marginalisées qui n'ont jamais eu accès à la radio et à la télévision. Nous nous sommes également assurés de supprimer le monopole qui existait au Zimbabwe avec une seule station de télévision, à savoir le radiodiffuseur national. Et aujourd'hui, en ce moment même, à cause de la rigueur de notre président, M. Mnangagwa, au cours des 5 dernières années, nous avons pu accorder des licences à 6 télévisions commerciales afin de joindre le geste à la parole. Lorsque vous parlez d'accès universel à l'information pour tous, nous disons aussi que les Zimbabwéens sont très instruits, si l'on considère le taux d'alphabétisation. Nous sommes peut-être le premier ou le deuxième pays d'Afrique après la Tunisie. Nous disons donc qu'il faut offrir aux Zimbabwéens des possibilités diversifiées. Ceux qui veulent écouter le sport doivent le faire. Ceux-ci veulent suivre le matériel éducatif, ceux qui veulent suivre même les nouvelles de divertissement, tout cela, nous avons librement donné aux Zimbabwéens une variété diversifiée de médias. Et nous sommes également conscients du fait que les droits numériques sont devenus comme les droits de l'homme. En tant que pays, nous avons donc adopté les médias sociaux avec tous leurs avantages et inconvénients, mais nous les avons adoptés. Ce que nous voulons maintenant, c'est de la formation. Alors nous parlons aux médias russes pour comprendre comment ils ont géré la désinformation et les fausses nouvelles. Nous voulons aussi prendre de l'expansion. Il faut aussi comprendre, la plupart de nos documents au Zimbabwe sont encore sous forme analogique. Et vous savez très bien que les jeunes d'aujourd'hui ne vont plus dans les bibliothèques. Ils ne regardent pas non plus la télévision. Ils sont tous coincés avec leurs appareils médiatiques. C'est donc notre travail et c'est ce à quoi nous attachons des investisseurs pour nous assurer que nous sommes entièrement numérisés. Parce que si nous ne nourrissons pas notre jeune génération de contenus légitimes zimbabwéens, et si nous les laissons dépendre de Facebook, Twitter, de contenus américains...
Pour rappel,
les réseaux sociaux Facebook et Instagram, contrôlés par la plateforme américaine Meta, sont interdits en Russie pour activités extrémistes. En particulier, ils ont ignoré des demandes de suppression de fausses nouvelles concernant l'opération spéciale en Ukraine et n'ont pas interdit la publication d'appels au meurtre de militaires russes.
Alors nous aurons une génération de gens qui ne seront pas fiers d'être qui ils sont. Nous disons donc aux Russes que nous avons accordé des licences à ces télévisions et à ces collectivités. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un partenariat conjoint dans la production de contenu, afin que le contenu qui vient de Russie soit en fait très bénéfique à bien des égards. Ce que nous recherchons ici, c'est une situation gagnant-gagnant, où les investisseurs russes viendraient parce que nous voulons développer le secteur des médias. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas grossir. Il y a tellement de talents qui doivent être mis à profit et quand il s'agit de production cinématographique, qui relève également de notre ministère. Nous voulons établir un partenariat, une production conjointe. Nous avons de splendides paysages au Zimbabwe. La 7e merveille du monde, les chutes Victoria, est dans mon pays. Imaginez donc que tourner un film avec un Russe soit une norme mondiale. Nous envisageons donc de nombreuses possibilités. Nous cherchons donc également à produire des émetteurs et à nous assurer que l'information parvienne à tous les habitants des 10 provinces du pays.
Pourquoi pensez-vous qu'il est important de diversifier les sources d'information dans le monde qui est dominé par les médias traditionnels?
C'est très important, c'est très critique. Comme je l'ai dit, les médias traditionnels ont toujours donné de l'information. Si la BBC veut parler du Zimbabwe, elle s'exprime de son propre point de vue et non pas comme nous le faisons. Si nous permettons aux gens de l'extérieur de parler de notre pays sans notre participation, sans parler de notre pays, alors nous nous dirigeons vers de gros problèmes. Les générations futures seront totalement perdues. Il n'y a pas de pays qui se développe, qui n'a pas ses liens historiques. Comme je l'ai dit, il est important de savoir d'où vous venez et où vous êtes afin de pouvoir tracer la bonne voie pour l'avenir. Il est donc très important que nous travaillions avec tout le monde. Et comme je l'ai dit, nous sommes amis en tant que pays envers tous les pays. Et nous aimerions être l'ennemi de personne. Nous voulons pouvoir travailler avec tout le monde à travers le monde.
C'était Monica Motsvangwa, ministre zimbabwéenne de l'information. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Mon prochain invité, Ebrahim Tacharout, journaliste algérien au quotidien L'Expression. À tout de suite. Monsieur Ebrahim Tacharout, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli dans ce joli bureau.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, Monsieur Tacharout, il y a le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui a visité la Russie il y a quelques semaines. Et après la visite de la Russie, il s'est envolé en Chine. Il a fait une autre rencontre avec les autorités chinoises et beaucoup de choses ont été décidées. Alors, nous pouvons dire que c'est un peu ça le contexte où intervient ce forum Russie-Afrique,
du moins pour la présence algérienne. Alors, comment vous voyez la chose et comment vous voyez l'évolution des relations russes, algériennes et au sein des BRICS?
Merci. Effectivement, il y a eu la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Russie, puis est venue sa visite en Chine où elle a rencontré les hautes autorités des deux pays. Au fait, c'est une visite qui s'inscrit un peu dans le contexte, comme vous venez de le dire, dans le contexte du changement, de l'accélération des changements, et notamment en Afrique. Et l'Algérie, beaucoup de gens étaient dans un premier temps étonnés pourquoi le président algérien se visite la Russie puis la Chine. Mais en fait, les relations algéro-russes ne sont pas nouvelles, elles sont anciennes. Donc c'est dans l'ordre des choses qu'il visite un partenaire et un allié stratégique, un allié, un ami depuis la révolution algérienne. Donc c'est dans l'ordre des choses, de même que la Chine aussi, mais c'est aussi dans le contexte de ces changements qui s'opèrent en Afrique. Et c'est une manière, entre guillemets, de s'affranchir un peu d'un ancien contexte, d'un ancien hégémonisme, s'affranchir au plan, comme on vient de le dire tout à l'heure, de sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan politique. C'est une façon de dire, nous avons notre mot à dire, nous avons notre spécificité, nous avons nos points de vue. Et
surtout nos
besoins en matière de paix, de sécurité, d'alimentation, de développement, d'industrialisation, d'énergie, etc. Donc c'est une façon de s'affranchir, de se libérer de tout ce, en quelque sorte, de déchirer la camisole. Voilà, la camisole occidentale imposée depuis l'ère postcoloniale. Voilà, c'est un peu tout ça.
Alors, ça tombe bien parce que ce forum, tout comme le forum économique de Saint-Pétersbourg qui s'est tenu le mois de juin, et il est sous le label de la souveraineté économique. C'est-à-dire, le contenu, c'est de donner aux pays africains les moyens de leur propre développement. C'est-à-dire que les partenaires viendront juste pour compléter une politique de développement interne, donc qui part par la formation, par la transformation des matières premières. Alors, est-ce que il y a cet aspect-là actuellement dans les relations algéro-russes et aussi algéro-chinoises? Est-ce qu'on peut dire que on sent qu'il y a un nouveau cap dans ces relations?
C'est même une démarche entamée par les autorités du pays depuis fort longtemps, mais notamment depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune. On en parle essentiellement de l'indépendance économique. Hein, c'est le mot, et il est redondant, il est répétitif. C'est pour dire que c'est une vision, c'est une stratégie, effectivement, qu'il faut, après avoir acquis l'indépendance politique, il faut aussi l'indépendance économique. Et l'indépendance économique suppose, en effet, le développement industriel, le développement, la sécurité alimentaire, ce qui est très important. Et le développement industriel, le développement, la sécurité alimentaire, ce sont des aspects qu'on ne pourra développer qu'avec des partenaires comme la Chine, comme la Russie. Et la Russie, d'ailleurs, a largement contribué à la formation de cadres depuis l'indépendance du pays, à des installations industrielles qui sont aujourd'hui, à ce jour, fonctionnelles. Donc, effectivement, c'est une démarche qui s'inscrit dans la logique des choses, notamment pour les autorités algériennes, de faire cette indépendance économique qui est au sens large du terme. Et ça tombe effectivement bien parce que ce forum offre cette opportunité, il donne des perspectives, pas uniquement pour l'Algérie, mais aussi pour tous les pays africains qui en ont besoin. C'est en quelque sorte, c'est l'Afrique qui se prend en charge, qui parle d'elle-même. On a tout le temps parlé de l'Afrique sans l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a parlé de nous sans nous, et maintenant c'est à nous de parler, d'agir et de nous libérer de tout ça, de toutes ces contraintes.
D'accord. Lors de sa visite, le président Tebboune a mis le cap sur d'abord ce que vous venez de dire tout de suite là, sur la question de la sécurité alimentaire et puis le médicament. Et il y a aussi la coopération dans d'autres secteurs stratégiques comme l'énergie et comme les technologies de communication et même par la suite pas domaine de l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Est-ce que il y a en Algérie actuellement des décisions ou des projets qui sont lancés dans ce sens, justement pour que ça soit quelque chose fait national, et puis auquel on pourrait inviter des partenaires étrangers.
Il y a effectivement des choses. Vous venez de citer notamment le secteur pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique. Vous savez que l'industrie pharmaceutique, avant il y avait un ministère, maintenant il est rattaché carrément au ministère de l'industrie. Donc nous avons un ministère de l'industrie et de la production pharmaceutique, ce qui suppose qu'il y a une volonté d'aller vers la production. Donc pour sur le plan notamment du médicament, l'Algérie a sérieusement mis le cap pour la production de, d'ailleurs, pas uniquement avec les Russes ou avec les Chinois, mais aussi avec les Américains. C'est-à-dire que l'Algérie, dans ce domaine du business, même dans le domaine politique, on l'a passionné tout à l'heure, c'est que l'Algérie se situe à équidistance, c'est-à-dire qu'elle est jalouse de son nom, de sa position de non-alignement, c'est-à-dire d'un pays non-aligné. Et là, un partenaire privilégié qui est la Russie, cela ne suppose pas qu'elle s'oppose à d'autres pays occidentaux, non. Mais, bien sûr, dans des secteurs stratégiques comme, je cite l'armement, elle a toujours été un client privilégié de la Russie, mais il y a des choses effectivement qui se font. Donc sur le plan du médicament, sur le plan de l'agriculture aussi, il y a énormément de choses. D'ailleurs, il y a des projets avec les Chinois, de très grands projets au sud avec la partie chinoise. Donc on a cité le médicament, l'agriculture, mais il y a aussi l'industrie. Beaucoup de projets industriels et l'Algérie pour se développer, reconstituer son tissu industriel est en train de multiplier les partenaires. Et pour ficeler tout ça, il y a un nouveau code des investissements très avantageux pour les partenaires étrangers.
D'accord.
C'est un, si tu veux, c'est un appel aux partenaires étrangers, parce que il a vraiment des avantages. Et il y a, en plus des avantages sur le plan des lois qui sont nouvelles, il y a aussi des avantages comparatifs. Vous savez qu'en Algérie, l'énergie est presque donnée, l'eau est presque donnée. Donc, il y a quand même des choses importantes.
C'est très important. C'est ce code-là de l'investissement, c'était l'un des obstacles que relèvent beaucoup d'investisseurs étrangers qui voudraient venir en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui a changé entre l'ancienne loi et le nouveau, et quelles sont les garanties qu'il donne?
Le changement majeur, c'est dans ce nouveau code des investissements, c'est la suppression de la loi 49-51. C'est-à-dire avant, c'était une très grande barrière, notamment pour les PME, PMI, et on imposait la loi 49-51. C'est-à-dire que la partie algérienne est censée détenir 51% du capital de l'entreprise. Ce n'est plus le cas maintenant. Celui qui veut investir, qu'il vienne investir, à part certains secteurs classé stratégique. Il y a aussi un autre aspect très important, c'est le transfert des devises à l'étranger. Il y a beaucoup de facilités qui sont contenues dans cette loi.
C'est-à-dire, ça, c'est pour les dividendes.
Les dividendes, exact. Il y a aussi un aspect tout aussi important, c'est la stabilité des lois. Avant, les lois changeaient entre matin, soir et parfois même à midi. Maintenant, c'est 10 ans. Donc, il y a une stabilité au niveau des
lois. Donc, le nouveau code offre une visibilité.
Une visibilité et surtout une stabilité qui est un gage, une assurance pour les entreprises étrangères. Voilà, globalement, c'est ça. Je pense qu'il est du devoir maintenant des médias, des autorités de donner un peu de la visibilité pour ce marché algérien, pour ces lois. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui est en train de se faire. Je pense que ça, petit à petit, ça va venir.
Alors maintenant, passons à deux ou trois questions politiques. Alors, j'aimerais bien savoir comment, et dire donc à nos auditeurs, comment la classe politique ou les médias, tout simplement, voient cette situation en Ukraine, qui a été donc déclenché depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Comment les gens voient cette opération? Qu'est-ce qu'ils pensent de sa probable issue?
Vous savez, d'abord, il y a un premier sentiment, c'est qu'il voit ça avec beaucoup de tristesse. Une guerre n'est jamais une bonne chose. Une guerre est toujours, a toujours des conséquences mauvaises. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, c'est que nous croyons, nous, je parle au niveau de la presse, nous croyons qu'il y a un certain... Et là aussi, on revient à un certain hégémonisme occidental, disant aux Ukrainiennes, aux Ukrainiens, nous allons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais c'est pas eux qui se battent, c'est les autres jusqu'au dernier Ukrainien. Donc il y a, on a l'impression que toutes les tentatives de négociation, de compromis sont avortées parce que il y a là aussi des intérêts économiques. Vous savez, une guerre. C'est la seule entreprise où on est payé deux fois. On est payé pour faire la guerre et on est payé pour reconstruire. Donc, il y a aussi des arrière-pensées économiques. Vous savez, la reconstruction de l'Ukraine, c'est les Américains, c'est les Occidentaux qui sont au premier rang. Donc, il y a ce double aspect, c'est-à-dire qu'il y a ce côté sans pitié des affaires, mais il y a aussi cette tristesse d'une guerre dont on souhaite une issue rapide. D'ailleurs, l'Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, quand il est venu en Russie, il a proposé sa médiation pour le règlement de ce conflit.
La situation politique internationale qui est engendrée, enfin, c'est une chose qui a commencé ça fait bien longtemps, mais l'opération spéciale russe en Ukraine a donné un coup d'accélérateur. Donc, à l'émergence d'un monde multipolaire où l'hégémonie occidentale n'est plus au menu. Il ne s'agit pas d'aller le déterminer, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, mais il s'agit de dire que stop à l'hégémonie, stop à la dictature et que chaque région du monde a le droit de s'exprimer. Comment voyez-vous, en tant que journaliste, cette question-là et comment... peut-on penser la place de l'Afrique, la place de l'Algérie, de l'Afrique du Sud dans cette nouvelle architecture mondiale?
Vous savez, prédire l'avenir, c'est pas toujours évident, mais enfin...
Parlons de dynamique, bien sûr.
Exactement, on parle de dynamique, effectivement. Moi, je pense essentiellement à la dynamique des BRICS qui va jouer un rôle important dans la nouvelle configuration géopolitique internationale. Parce que c'est aussi c'est un autre levier de se libérer de cet hégémonisme. Les BRICS, c'est une chose absolument importante parce qu'effectivement, elle offre des perspectives aux pays africains, ou du moins à ceux qui dirigent ce nouvel ordre mondial, ceux qui veulent pas imposer, mais dire, écoutez, on n'est pas pour l'hégémonisme. Il faut un monde multipolaire plus juste, plus équilibré et qui obéit aux règles du droit international. Mmh. Donc, moi, je pense que l'issue des BRICS peut servir énormément à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Et il va jouer un rôle central dans cette nouvelle dynamique.
D'accord. Alors, une dernière question. Le sommet des BRICS qui va se tenir en Afrique du Sud va discuter d'une question très importante, qui est celle de créer une monnaie commune. Une monnaie commune avec laquelle ces pays vont échanger, commercer et qui est ouverte à tous les pays qui voudraient aussi échanger ou commercer dans cette monnaie.
Franchement, je vois qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses maintenant, on va dire qu'elles sont à l'état embryonnaire. Mais vous savez, l'autre camp, c'est-à-dire que moi je pense à l'autre camp, ils ne seront pas les bras croisés, ils vont réagir, j'espère qu'ils ne seront pas foudroyants, mais en tout cas, ils vont réagir. C'est vrai qu'il y a cette idée de monnaie unique qui sera discutée en Afrique du Sud, en ce mois d'août, mais nous attendons plutôt la réaction de l'autre camp. Comment ils vont réagir? Quelles sont les actions qu'ils vont mener? C'est très important de suivre leurs actions, leurs mouvements. C'est très important. C'est ce qui va déterminer en quelque sorte les décisions qui seront prises en Afrique du Sud. Bien sûr, les responsables qui vont du BRICS qui sont là-bas vont avoir un œil et une oreille aux réactions de l'autre camp, bien évidemment.
D'accord. Monsieur Brahim Akhroub, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans le studio. D'autant plus un confrère algérien travaillant dans un média francophone très célèbre en Algérie.
Ben, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez pris comme ça de court. Je passais à côté de vos studios et puis voilà, on a fait une interview.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
C'était Brahim Takharoubt, journaliste algérien au quotidien L'Expression. Chers auditeurs, nous sommes toujours en direct des studios de Radio Sputnik Afrique à Saint-Pétersbourg, où se tient actuellement le sommet Russie-Afrique conjointement avec le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique également. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche, diffusée en collaboration avec Radio Maliba FM à Bamako. Le prochain interlocuteur est le docteur Messaoudi Abdelaziz, médecin tunisien, militant politique et des droits de l'homme.
Docteur Messaoudi, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors, ma première question, qu'avez-vous retenu essentiellement de l'intervention du président Poutine hier, lors de laquelle il a tracé les grands axes qu'il veut développer dans le cadre de la coopération Russie-Afrique?
Oui. Comme on le sait, le président Poutine accorde beaucoup d'importance aux relations de la Fédération de Russie avec les pays africains. Il faut dire que l'Afrique maintenant, et le continent africain, est devenu un enjeu de rivalité, bataille politique même entre les différents acteurs de la politique mondiale. D'une part, les puissances coloniales qui ont longtemps régné sur les destinées de l'Afrique, qui l'ont pillé, qui l'ont exploité à fond, qui actuellement font tout pour que leur hégémonie et leur domination sur le continent africain persiste et continue, et les autres acteurs politiques, c'est-à-dire en particulier la Chine et la Fédération de Russie, qui veulent que ce continent prenne toute sa place dans la politique mondiale, aussi bien sur le plan économique, sur le plan culturel, que sur le plan donc du développement humain. Et cela est possible parce que les peuples africains, ces derniers temps, ont montré qu'ils veulent bien se débarrasser de cette hégémonie occidentale avec l'aide de la Russie et de la Chine, qui sont en train de se batailler pour un nouvel ordre économique multipolaire qui doit mettre fin justement à la domination de l'Occident collectif, comme on l'appelle ici en Russie, et qui a fait des dégâts énormes dans les pays en voie de développement. Donc le sommet hier, c'était en fait pour donner, pour relancer donc la coopération entre la Russie et les pays africains, qui sont venus très nombreux à ce sommet. On parle de 89 pays représentés dans le sommet sur les 54 pays africains, ce qui est énorme. Et ce, malgré les pressions.
17 pays. Il y a 84 délégations venues de 5 des pays africains.
Oui, oui.
Délégations,
oui, je parle de délégations, bien sûr. Oui, nous ne sommes pas tous présidés par les chefs d'État.
Voilà.
C'est évident, voilà.
Il y a 17 chefs d'État.
Voilà, il y a 17 chefs d'État et les autres sont soit c'est des chefs de gouvernement, des ministres, il y a eu, je crois, quelques ambassadeurs pour représenter certains pays. Donc, ce sommet, il est très important, mais ce, malgré les pressions énormes qui ont été exercées sur les pays africains pour les dissuader de participer à ce sommet. Et le président Poutine, hier, il a donné donc les grandes orientations de ce que devraient être les relations entre les relations futures entre la Russie et les pays africains. Et je pense que ce n'est pas le premier sommet d'ailleurs, puisqu'il y a eu un sommet en 2019. Donc c'est le deuxième sommet. Et ce sommet marque donc une évolution importante de ces relations qui sont appelées à se développer sur tous les plans, comme je l'ai dit, sur le plan politique, sur le plan économique et n'oublions pas aussi sur le plan culturel. Parce que c'est important, les échanges humains aussi, c'est très important pour les deux parties.
Bien. Alors, pour rebondir directement sur ce que vous venez de développer, certainement, cette tendance, comme vous avez dit, en particulier des pays qui forment actuellement ce qu'on appelle les BRICS, veulent venir en Afrique et créer des partenariats. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi que pour rentrer dans une dynamique de développement, il faut que les deux parties fassent quelque chose. Ouais. Donc, il faut que les partenaires étrangers arrivent avec la volonté de développer les pays, c'est-à-dire de transférer la technologie, le savoir-faire scientifique, de former des gens, des grandes compétences, d'aider à l'industrialisation de ces pays en transformant les matières premières localement, et puis aider aussi à l'exportation, c'est possible. Mais en même temps, et sur ça que je voudrais avoir votre avis, le développement, il faut qu'il soit africain avant tout, c'est-à-dire qu'il doit émaner d'abord de la volonté politique africaine à se développer. C'est la seule façon d'abord d'intéresser les gens pour qu'ils puissent venir. Et en même temps, on sait dans quels sont les domaines à cibler.
Absolument. Bien sûr, le développement, il doit se baser surtout sur les ressources des pays africains qui sont des ressources énormes, des ressources sur les matières premières, les ressources humaines en Afrique. C'est un continent qui est en pleine évolution démographique. C'est un continent aussi qui est en train de développer les compétences humaines, la formation de cadres, en particulier avec la Russie qui, depuis la période, depuis l'époque soviétique, reçoit annuellement des dizaines de milliers d'étudiants de tous les pays africains. Elle contribue encore à former les cadres scientifiques pour justement développer l'économie dans leur pays.
D'accord. Alors une dernière question, docteur Messaoudi. Depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, l'émergence du monde multipolaire, aussi bien sur le plan politique que économique, s'est accélérée à une très très grande vitesse. Donc, dans cette nouvelle architecture en gestation et en formation, qui certainement prendra encore un peu plus de temps, est-ce que vous voyez que c'est une chance pour l'Afrique d'avoir sa place dans un monde multipolaire où elle peut avoir droit de cité et le droit en particulier au développement?
Oui, c'est, vous avez bien dit, c'est vraiment le mot de dire que l'opération militaire spéciale menée actuellement par la Russie en Ukraine, elle peut être considérée comme un coup d'accélération pour l'instauration d'un monde multipolaire. Parce que tout le monde le comprend. Les États-Unis et ce qu'on appelle ici en Russie l'Occident collectif a mis tous les moyens pour affaiblir la Russie Et l'opération d'ailleurs a été déclenchée pour éviter l'étouffement de la Russie, parce que le projet initial c'était de faire entrer l'Ukraine dans les rangs de l'OTAN et donc de priver la Russie de sa base marine fondamentale en Crimée. Or la Russie a pu déjouer ce plan-là. Et maintenant, avec l'opération spéciale, elle qui vise à pacifier la région de Donbass, qui était l'objet pendant 8 ans d'intervention armée de la part des forces radicales de pro-nazis en Ukraine, qui ont voulu justement, qui se sont laissés être aux mains des Occidentaux, qui voulaient à travers l'Ukraine combattre la Russie et l'empêcher de se développer. Mais maintenant, avec cette opération militaire, les choses évoluent donc dans le bon sens et il prépare les conditions à l'apparition de ce monde multipolaire, parce que tout le monde comprend maintenant, y compris l'Union européenne, y compris les pays européens, y compris l'opinion publique européenne, commence à comprendre que le monde unipolaire avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine est arrivé à sa fin, et que le monde après le 24 février 2022 et celui d'avant ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre un moment historique de très grande importance. Nous espérons bien que cette opération soit menée à bon port, c'est-à-dire avec la victoire de la Russie et l'instauration d'une situation qui favorise l'indépendance du Donbass et la pacification de cette région. Et cela aura certainement des répercussions énormes sur l'architecture, comme vous l'avez bien dit, de l'architecture de la politique mondiale, avec un nouvel équilibre qui permettra certainement aux pays africains, mais pas uniquement aux pays africains, mais aussi au reste du monde, d'avoir un nouveau souffle, et donc de ne plus supporter l'hégémonie occidentale comme ça a été le cas jusqu'à maintenant.
D'accord. Alors, une autre question, monsieur Messaoudi. Dans ce que vous voulez développer, comment vous voyez le rôle et la possibilité de changer les institutions internationales?
Je pense que cela aussi, ça va découler...
Comme l'ONU et les autres...
Oui. Ça va découler aussi des résultats de cette opération militaire spéciale, parce que l'architecture de l'ordre mondial, du nouvel ordre mondial multipolaire, va certainement appeler des changements importants dans le fonctionnement des organisations internationales, en particulier de l'ONU, qui va être appelée à des changements importants dans ses structures actuelles.
D'accord. Je vous remercie, Monsieur Messaoudi. C'était un plaisir, et j'espère que nous allons garder le contact et avoir l'occasion de vous inviter dans une émission pour en discuter plus et profondément dans les prochains jours.
Merci beaucoup, avec plaisir à tout moment. Merci à vous.
Merci.
Merci.
C'était le docteur Messaoudi Abdelaziz, médecin tunisien, militant politique et des droits de l'homme. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je m'appelle Kamal Ouad, je suis l'animateur de l'émission L'Afrique en marche, en direct de Saint-Pétersbourg, où se tient actuellement le sommet Russie-Afrique conjointement avec le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. également. Le prochain interlocuteur est Larissa Zeltsova, présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS. Madame Zeltsova, bienvenue à Radio Sputnik Afrique. Vous êtes à la tête de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS. Pourriez-vous indiquer à nos auditeurs les pays africains avec lesquels votre organisation travaille aujourd'hui? Et prévoyez-vous d'étendre vos activités sur le continent?
En fait, il faudra peut-être beaucoup de temps pour donner les noms de tous les pays africains avec lesquels nous avons maintenant des relations. Tout d'abord, après peut-être 2018, de nombreux pays de différentes régions ont demandé à notre organisation de créer, d'organiser la représentation de l'Alliance BRICS dans leur pays. Si nous parlons de l'Asie, par exemple, nous avons maintenant des représentations de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie, en Iran, en Turquie, dans la plupart des pays arabes. Ensuite, nous avons des représentants nommés par notre organisation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et bien sûr en Afrique du Nord. Par exemple, nous avons des représentants en Afrique de l'Est, au Kenya, en Ouganda, puis dans le Nord, en Éthiopie, dans l'Ouest. Nous avons déjà visité le Sénégal et nous avons créé des représentations à Saint-Louis plutôt qu'en République centrafricaine, au Burkina Faso. Et je pense que nous avons déjà commencé notre activité dans certains pays. Si nous parlons de l'éducation, par exemple, du domaine de l'éducation, nous avons signé un accord entre l'université de Sibiré, de Kemerovo et Nairobi, l'université kenyane et l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, la République centrafricaine et le Burkina Faso sont plus importants pour nous parce qu'ils sont le visage des pays où les gens sont si désireux de créer, de construire une nouvelle société. C'est juste un grand désir de notre part de les aider.
Comme nous le voyons aujourd'hui, un certain nombre de pays africains ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe des BRICS et leur nombre ne cesse de croître. Comment expliquez-vous cet intérêt de l'Afrique pour l'organisation ? L'Alliance des BRICS travaille-t-elle avec ces pays qui envisagent de la rejoindre un jour?
Vous savez, je pense que c'est très facile à expliquer en quelques mots. Tout d'abord, la population des 5 pays des BRICS est d'environ 42% de toute la planète et de toute la population de toutes les sociétés civiles, des membres de la société civile, c'est-à-dire des gens ordinaires qui veulent vivre en paix, qui veulent coopérer, veulent se faire entendre, veulent exprimer leur volonté de se développer, de renforcer leur souveraineté, de créer une vie décente pour leur peuple. C'est si facile et si compréhensible qu'ils veuillent rejoindre toute cette famille de pays des BRICS.
Nous parlons beaucoup aujourd'hui du monde multipolaire. Pouvons-nous dire que les BRICS sont l'un des formats de ce nouveau monde multipolaire?
Oui, c'est inévitable. Parce que je pense que c'est aussi une nouvelle tendance dans le désir des gens de créer un monde multipolaire. Et parfois, ils me demandent pourquoi la présidence invite l'organisation non gouvernementale à visiter le pays ou à coopérer. D'abord, c'était un peu étrange pour moi parce que c'est une nouvelle tendance. Mais ensuite, j'ai compris que c'est le désir des gens de construire des relations sur la plateforme des relations humaines, tout d'abord, pas bureaucratiques ou gouvernementales. Beaucoup de nos entreprises coopèrent maintenant avec le Burkina Faso et la République centrafricaine pour créer ensemble une plateforme pour utiliser les nouvelles technologies. C'est une nouvelle tendance de ces pays africains. Ils veulent apprendre de nouvelles tendances des technologies, la science, et nous voulons les aider.
L'Alliance des BRICS prévoit également d'ouvrir son siège d'origine en République centrafricaine. Quand prévoit-il le faire et pourquoi a-t-on choisi ce pays?
Vous savez, en fait, nous l'avons déjà ouvert parce que j'y suis allée deux fois. La première visite était une sorte de visite officielle. Et puis, nous nous sommes réunis avec des entreprises. Mon objectif personnel était juste de montrer que nous ne parlons pas seulement et ensuite nous disparaissons. Nous voulons montrer que nous parlons et que nous faisons ce dont on a parlé. Et nous sommes venus avec des entreprises. Nous avons signé une quinzaine de mémorandums et d'autres documents pour lancer des projets qui sont vraiment nécessaires en République centrafricaine. Par exemple, tout d'abord, le système 5G pour le développement de la télévision et le développement du Wi-Fi. Puis quelques projets, bien sûr, des projets de reprise, puis la création de deux usines qui sont liées à l'agriculture. Ensuite, nous avons même discuté de la possibilité de planter des pommes de terre, parce que c'était avant en Afrique centrale. Et nous, pour la première fois peut-être, nous avons vu des gens dans ce pays et dans d'autres pays africains, des gens avec une nouvelle expression sur le visage. Ils sont si beaux et si, comment dire, ils sont très intelligents, très instruits. Ils sont si désireux de commencer une nouvelle vie et de ne pas revenir à leur vie antérieure. C'est très difficile, bien sûr, mais le pays est très riche. Et tout d'abord, nous voulons aider avec les technologies.
Vladimir Poutine a déclaré que la Russie est prête à payer en devise nationale pour commencer à commercer en monnaie nationale avec les pays africains. L'Alliance des BRICS est-elle apte à adopter un tel format de règlement alternatif au dollar?
Vous savez, cette question est très difficile en général. Et beaucoup de gens ont essayé de régler ce problème avec ce système de paiement. Mais je ne veux pas révéler le secret, ce n'est pas un secret. Mais de toute façon, notre groupe spécial, nous l'appelons IT Group, ils ont déjà parlé au président de la République. Ils ont discuté de la façon d'organiser ce système de paiement et ils ont trouvé la solution, pour ce que j'en sais, mais surtout pour la République centrafricaine. Et je pense que s'ils savent déjà, je veux dire les hommes d'affaires, comment entrer dans cette République, comment y travailler dans cette situation difficile, surtout en ce qui concerne le paiement, je pense que c'est possible. Et nous avons même notre société juridique Rurik qui prépare maintenant une plateforme juridique spéciale pour entrer dans cette République pour faire des affaires. C'est très important pour nos hommes d'affaires. Malheureusement, il n'y a plus d'informations à ce sujet.
C'était Larissa Zelentsova, présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS. Chers auditeurs, nous sommes toujours en direct des studios de Radio Sputnik Afrique à Saint-Pétersbourg où se tient le sommet Russie-Afrique conjointement avec le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche diffusée en collaboration avec Radio Maliba FM à Bamako. Le prochain et dernier invité de cette édition spéciale est N'Gor Sarr, enseignant de la langue russe sénégalais et directeur d'une entreprise de consulting russo-sénégalaise.
Alors, monsieur N'Gor Sarr, c'est un immense plaisir de recevoir parmi nous. Merci d'avoir accepté cet entretien.
Merci beaucoup.
Bien. Alors, pour partir du thème central de ce sommet, c'est celui de la souveraineté économique et de la sécurité, en particulier alimentaire. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et pensez-vous que cette rencontre internationale franco-russe pourrait justement amener un plus dans ce sens pour les pays africains?
Merci beaucoup. Je pense que cette rencontre est une aubaine pour l'Afrique, pour les pays africains et surtout pour nous, pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et nous aussi anciens et étudiants de l'ex-URSS et de la Russie. Et on vient voir réellement ce qui se passe de visu pour pouvoir espérer qu'à la fin de ce sommet, alors vraiment, les accords à tous bords vont donner des fruits.
D'accord. Alors, pour aller dans justement dans le domaine où vous êtes issu à la base, c'est l'enseignement, la recherche, le développement, les échanges scientifiques. De ce point de vue, comment voyez-vous la coopération entre le Sénégal et la Russie, d'abord, mais en général aussi entre tous les pays qui seraient intéressés par la coopération dans le domaine scientifique et technologique avec la Russie?
Vous voyez, au début des années de l'indépendance, vraiment, ce n'était pas facile, mais le Sénégal, avec notre premier président Léopold Sédar Senghor,
le célèbre président humaniste, et révolutionnaire.
Il a dit, malgré tout, nous devons envoyer nos étudiants en Russie, en URSS, pour aller chercher la science. Et il a bien vu, parce que depuis les débuts des années 64, comme ça, bon, alors la coopération culturelle entre l'URSS et le Sénégal a commencé. Alors, par rapport à l'enseignement justement du russe que je connais, c'est le russe a commencé à être enseigné en 1966
ah oui.
au Sénégal avec des coopérants russes. Mais depuis 1989 justement, alors la première vague des Sénégalais hein, a commencé à enseigner le russe et maintenant il y a plus de coopérants russes dans ce domaine. Alors voilà, et au Sénégal nous avons 14 régions avec des lycées où le russe est étudié. Bon, mais alors dans toutes ces 14 régions, il y a de la langue russe est enseignée. Cette année, on a enregistré 7000 élèves au lycée qui apprennent la langue russe.
Eh ben,
il y a le département de russe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Ouais.
En dehors du département de russe, il y a la faculté de formation où la faculté où on forme les professeurs de russe nous-mêmes.
D'accord.
Sénégalais.
Sénégal.
C'est-à-dire là, maintenant, le hic est que ces professeurs formés, alors pour le bien linguistique, il y a un petit problème, hein, parce que voilà, ils n'ont pas assez de moyens pour se payer les billets pour venir faire le bien linguistique. Mon combat de tout le temps est de pouvoir aider ces jeunes professeurs hein, qui développent la langue russe à pouvoir venir faire passer un bien linguistique. Maintenant, en ce qui me concerne par rapport, en tant que retraité, par rapport au développement, aux relations entre les universités sénégalaises et russes, alors c'est des conventions hein, que ces universités signent. L'université, présentement, l'université électrotechnique de Saint-Pétersbourg,
d'accord.
que je représente au Sénégal, a signé des conventions avec l'Université de Dakar, avec la nouvelle université Amadou Mokhtar Mbow, l'ancien directeur de l'UNESCO. Et voilà, il y a une autre université, l'Université Polytechnique de Saint-Pétersbourg, qui se prépare aussi à venir au Sénégal pour visiter l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, il y a des perspectives réellement par rapport à cette coopération. Et tout à l'heure, je suis sorti du Rosatom. Et au Sénégal, déjà, Rosatom a une coopération avec ITNA, l'Institut nucléaire en département au niveau de Cheikh Anta Diop. Et d'ailleurs, Rosatom a offert une douzaine de bourses aux étudiants sénégalais qui sont présentement là en Russie. Et,
pour les former dans les domaines de la technologie.
Pour les former dans le domaine de la technologie nucléaire.
Ouais.
Voilà. Alors, c'est vraiment... À ce sommet, alors on ne voit que de la réussite et de les perspectives vraiment correctes.
Bien. Alors par rapport au projet de développement de votre pays, je parle à un spécialiste de l'enseignement. Je rappelle que l'université Cheikh Anta Diop était justement un grand scientifique nucléaire. De renommée mondiale. Et ironie, c'est à cette université que un certain président français a dit que l'Africain n'est pas entré dans la civilisation.
Bien,
c'est pas grave. C'était une occasion ratée de se taire.
Ouais.
Donc, par rapport, par exemple, sur les thèmes qui sont actuellement brûlants. Par exemple, l'énergie, l'eau et la sécurité alimentaire. Donc, comment l'Afrique vit? Je vous le demande, je vous pose la question, pas comme spécialiste ou quoi que ce soit, simple citoyen. Vit donc la situation depuis l'opération spéciale en Ukraine et est-ce que Est-ce que il y a des perturbations dans la livraison?
Mais vous voyez, ça, je pense que bon, alors, il n'y a que des profiteurs dedans pour pouvoir dire voilà, c'est à cause de la guerre que moi je n'appelle pas guerre du tout. Ce n'est pas une guerre du tout. C'est une opération spéciale.
Absolument.
Vu les relations entre l'Ukraine et la Russie. Parce que, alors là, on ne peut pas tirer sur un frère.
Absolument.
Voilà. Et à tout moment, j'ai dit que bon, ça, c'est comme ça. Bon, alors, les Russes font attention, voilà. Mais c'est une opération qui est, voilà, de façade. Sur le plan alimentaire, les gens prennent une occasion, voilà, pour dire que, voilà, bon, c'est à cause de cette guerre. Oui, l'Afrique doit se nourrir. L'Afrique ne doit pas attendre qu'on la nourrisse. Les gens doivent se développer pour pouvoir vraiment, alors, travailler et vivre. Regardez, j'ai demandé à une dame russe qui dit que, bon, voilà, les sanctions-là nous ont aidés parce que, bon, voilà, nous, on se débrouille et on fait avec. Hein? Pourquoi les Africains ne peuvent pas faire comme ça?
Hein? C'est ce qu'ils doivent faire.
C'est ce qu'ils doivent faire. Mais pas attendre de la Russie, ça, des pays européens. Et c'est un complément seulement ce que doit faire l'Europe par rapport à l'Afrique. Bon, l'eau manque, mais par rapport à tout cela, nous avons des scientifiques. Voilà. Nous avons été tous étudiants en Europe, en France, en Russie, au Canada, etc., etc. Alors, ces gens-là travaillent dans leur pays, les développent. Alors, nous, pourquoi pas? Donc, ça signifie que bon, il y a une politique, hein, qui ne dit pas son nom. Bon, les gens, vraiment, c'est pas ça.
D'accord. Voilà. Alors, une autre question, monsieur Gossard, c'est, la question, du sommet des BRICS, qui sera organisé prochainement au mois d'août, le 24 août, en Afrique du Sud. Et les BRICS, donc, qui actuellement pèsent lourd dans l'économie mondiale et même sur le plan politique. Il y a une question qui est très importante, qui sera débattue justement dans ce sommet, qui est celle de créer une monnaie commune pour faciliter les échanges économiques donc entre les pays des BRICS, mais aussi entre les pays des BRICS et tous les pays qui souhaiteraient l'utiliser. Est-ce que comment vous voyez d'abord ce sommet? Est-ce que il est aussi important pour l'Afrique de s'arrimer à ce bloc-là, vu que il est la locomotive d'un monde multipolaire actuellement? Et par rapport à cette question de monnaie commune.
Oui, c'est depuis la création. C'est depuis sa création quand j'ai entendu BRICS et j'ai vu ces membres-là, j'ai dit que voilà, c'est une aubaine et que bon, malgré ce qui se passe actuellement, alors le monde va changer politiquement, hein, et culturellement. Ça va changer. Et ce BRICS, alors, sur le plan monnaie, ça fait jaser certains de l'autre côté, hein, parce que voilà, ils veulent pas entendre. Si nous prenons le franc CFA, hein, ou l'écho
c'est le franc CFA un peu maquillé.
Un peu maquillé. Bon, alors est-ce que voilà, avec ce BRICS là, hein, et cette monnaie commune du BRICS, bon, alors ça ne va pas booster, ça ne va pas accélérer la création de machin de l'écho. Hein. J'avais causé avec un Libanais. Il me dit, mais professeur, il faudra faire venir Pouchkine en Afrique de l'Ouest,
hein,
parce que Poutine en Afrique de l'Ouest. J'ai dit, mais pourquoi? Voyez ce que j'ai remarqué. Sur le plan importation-exportation, le fait de payer en monnaie locale directement, alors ça nous arrange. J'ai vraiment compris ce label-là.
Oui.
Hein? Au lieu d'acheter, si tu achètes en dollars, ça passe là-bas de l'autre côté, alors et ça revient, et comment ça, c'est un marché direct, alors là, vraiment, c'est bénéfique. J'ai dit, mais voilà. Donc, l'objectif du BRICS, hein, eh bien c'est ça. Économiquement et politiquement, ça fait l'affaire de l'Afrique.
Non, et parce que cette question-là, les gens, ils encouragent aussi les échanges dans les monnaies locales, mais nationales. Absolument. Pas le franc CFA.
Ouais.
Dans des monnaies locales nationales et qui sera donc le moyen de booster le développement vraiment à l'intérieur.
Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la même personne. Seulement, j'ai mis français et machin. Ouais. Donc, voilà. Mais je pense que, bon, en matière de monnaie, parce que, bon, vous savez, l'Afrique, ne fait que importer. Alors, vraiment, c'est bon pour son développement. Surtout, les commerçants seront vraiment à l'aise, hein, avec ça.
D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur Ngossa. Ça a été un plaisir de faire cette discussion avec vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était Ngossa, enseignant de langue russe sénégalais et directeur d'une entreprise de consulting russo-sénégalaise. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.